Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum de ce soir porte sur comment rendre viables et efficaces les radios communautaires du Niger. La charte des radios communautaires du Niger définit la mission de la radio communautaire en une radio de proximité. Elle est animée et gérée par des personnes issues du terroir où elle est implantée. Ces émissions sont réalisées et diffusées dans les langues du terroir. Elle sensibilise, éduque et divertit la population de son bassin d'écoute. Aussi, la radio communautaire ou associative fonde ses programmes sur les besoins et les aspirations de la communauté en tenant compte du cahier des charges édicté par le Conseil supérieur de la communication et des politiques de développement, selon toujours donc la charte des radios communautaires du Niger. À ce jour, le Niger compte combien de radios communautaires fonctionnelles? Quelles sont les principales difficultés auxquelles font face ces radios communautaires? Comment rendre efficaces et viables ces radios communautaires au Niger? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Moussa Hassan, il est secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires du Niger. M. Moussa Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Et également avec nous dans ce studio, Ali Ousseini Santalma, conseiller technique du ministère de la Communication du Niger. Monsieur Ali Ousseini, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à tous dans ce forum sur les radios communautaires du Niger. Un peu d'historique pour commencer, dans le but d'aider les populations rurales à accéder à la communication et à l'information. Le ministère de la Communication du Niger a institué par arrêté numéro 233/MCCJS du 30 novembre 1999 un comité paritaire de pilotage de l'initiative de développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication à travers des réseaux de radios de proximité CPRP. C'est ce comité qui a piloté le projet de mise en œuvre des radios communautaires ou radios rurales RuraNet, projet financé par le PNUD, ACMAD et la SNV. Entre l'année 1999 et celle de 2000, les premières radios communautaires furent installées au Niger, notamment celle de Bankilaré, dans la région de Tillabéri, en décembre 1999, celle de Tchentabaraden, région de Tawa, en mai 2000, celle d'Aderbisnat, région d'Agadez, en août 2000, etc. Alors, pour commencer, je commence avec vous, M. Ali Ousseini Santalma, conseiller technique du ministère de la Communication. Et quel est l'apport du ministère, justement, de la Communication dans la création, l'accompagnement et le développement de ces radios communautaires au Niger?
Merci, Alassane, de convier le ministère de la Communication qui a en charge la politique de la communication de l'État du Niger. Donc c'est à ce titre que nous représentons l'institution de l'État du Niger qui est le ministère de la Communication. Et vous-même, vous l'avez bien dit, c'est à la faveur de l'ouverture démocratique du paysage audiovisuel que les radios privées et les télévisions privées ainsi que les radios communautaires ont vu le jour au Niger. Et ça, c'est l'ordonnance de 1993 qui ouvre et qui consacre la liberté de la communication au Niger, qui nous a permis d'avoir la pluralité de ces organes, dont les radios communautaires, qui sont le plat de résistance aujourd'hui, donc à l'ordre du jour. Alors, je tiens à relever que avant la radio de Bankilaré, il y a eu la radio de Keta.
Ok, Keta. Oui. Alors, la région de Tawa.
La région de Tawa, vous savez, il y a eu un très grand projet Keta, dont les mérites ont été beaucoup vantés. Donc, Keta a bénéficié de sa première radio rurale, qu'on a appelée Radio Rurale de Keta. Elle a été mise en place en 1998 par le programme de développement rural ADR d'Outi Magia, PDR, ADM, appelé communément le projet Kietassé. Historiquement, c'est la première radio rurale. On peut l'appeler communautaire si on veut. J'en conviens avec vous. Elle a été suivie par l'installation en 1999 à Bankilaré de la radio Gomni, qui est l'aînée des radios communautaires de la nouvelle génération. On peut dire que la radio Gomni de Bankilaré est la première radio communautaire. Mais il y a eu avant elle donc la radio
celle de Keita.
Et depuis, il y a eu une centaine de stations de radio communautaires dans les 8 régions qui composent notre pays.
Et c'est ça, j'ai cité entre autres quelques-unes d'entre elles, notamment Bankilaré et à Tchintabaraden, à Derbisnat et Belbej et autres.
Tout à fait.
Voilà.
Donc comme vous l'avez aussi mentionné, au début de ce mouvement, il y avait le projet de mise en œuvre des radios communautaires ou rurales, Ruranais, qui était financé par le PNUD, par l'ACMAD et la SNV. Donc c'était le consortium de ces trois organisations qui, dans un premier temps, pilotent le projet de radio communautaire. Donc ce projet lui-même piloté par le comité paritaire de pilotage des radios communautaires CPRP, comme vous l'avez dit, qui a été institué par l'arrêté 233 du ministère en charge de la communication qui date du 30 novembre 1999 dans le but d'aider les populations rurales à accéder à la communication et à l'information. Donc, le ministère de la communication, en tant que représentant de l'État, a mis en place le comité de pilotage. Maintenant, les bailleurs vont amener les moyens pour mettre en œuvre les radios communautaires.
Et depuis lors, la prolifération, entre guillemets, ou on va dire le développement de ces radios communautaires s'est poursuivi de 8, 9 à ses débuts. Aujourd'hui, nous sommes à une centaine et nous allons justement demander à M. Moussa Hassan, qui est le secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires du Niger, de nous dire quel est le nombre aujourd'hui total des radios communautaires qui existent au Niger et surtout celles qui sont opérationnelles.
Merci, M. Alassane. Je m'en vais directement répondre à votre question comme vous l'avez souhaité. Aujourd'hui, nous sommes à 184 radios communautaires au Niger.
Fonctionnelles,
on va revenir.
On va revenir, mais 184 radios communautaires.
Voilà, nous, nous avons mené une étude d'état des lieux des radios communautaires c'est à partir de 2016 qui nous a donné une situation de 34 radios non fonctionnelles.
Sur les 184.
Nous avons tenté de renforcer parce qu'il y avait d'autres qu'on ne pouvait pas totalement réhabiliter puisque nos moyens ne pouvaient pas nous permettre de les réhabiliter. Mais nous, on a pu réhabiliter au moins 12 radios avec tous les matériels complets et on a renforcé 25, non pas parmi les non fonctionnels, mais parmi d'autres radios qui sont déjà fonctionnelles, mais qui manquent un certain nombre de matériel, de petits matériels, soit les panneaux, soit les batteries. C'est ce que l'organisation fêtière peut faire.
Alors, si on fait le calcul, vous avez dit que l'évaluation que vous faites, vous avez donné 184 radios communautaires sur l'ensemble du territoire national. Et dont 34 non fonctionnels. Si on soustrait ces 34, donc on a à peu près 150 radios.
Nous avons réhabilité 12, donc ça veut dire qu'il y avait 22. En ce moment, il ne reste que 22 sur les 34. Mais comment la situation a évolué aujourd'hui?
De 2016, parce que vous avez parlé de 2016.
Nous sommes en train d'actualiser, surtout que même le répertoire, nous l'avons de manière. Nous avons ça en électronique et nous sommes en train d'actualiser.
Mais le répertoire des radios.
Des radios communautaires que nous-mêmes, nous avons participé à son élaboration avec le Conseil supérieur de la communication et aussi avec l'appui du PNUD.
Alors, pour aller, quelle est l'importance d'une radio communautaire pour un pays, de façon générale, et pour une communauté ou pour une localité en particulier?
Aujourd'hui, en fait, l'importance des radios communautaires n'est plus à démontrer. Et même pas nous, en tant que agents des radios qui travaillent, on l'entend dans les bouches de tous les partenaires, des représentants même de l'État. Les autorités le disent chaque matin. Et je me rappelle récemment, le préfet de Meyahi avait donné un témoignage de satisfaction pour service rendu à la radio Meyahi. Ça, c'est important, c'est capital. Et vous savez que depuis que ces radios communautaires ont été implantées, aujourd'hui, les conflits communautaires ont diminué. ça supprime. Beaucoup de maladies ont été éradiquées. Le fait du Guinée, on n'en parle pas. C'est avec la contribution des radios communautaires.
Qui passent des messages de sensibilisation.
Des messages de sensibilisation. Et c'est local. C'est comme on l'a dit, dans la création des radios communautaires, c'est les langues locales qui sont parlées. Et c'est des agents qui sont recrutés
issus
de la communauté, qui savent quelle approche il faut pour amener les communautés à accepter une situation telle qu'elle est. Oui. Aujourd'hui, la fréquentation, par exemple, des centres de santé, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème parce que nous avons contribué à la sensibilisation. L'accouchement assisté dans les centres de santé, les radios communautaires ont contribué à l'information sur les actions des communautés pour les amener à accepter. Parce qu'avant, c'était peut-être une petite honte pour la femme d'être assistée par un major ou bien une sage-femme. Mais aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas assez de problèmes par rapport à ça. Et vous voyez l'inscription, par exemple, des enfants à l'école.
Notamment la jeune fille.
Mais maintenant, nous, on est confrontés à une autre difficulté, bien qu'on n'ait pas arrivé au niveau des difficultés, c'est le maintien.
Maintenant,
tous les parents savent qu'il est important d'inscrire l'enfant à l'école pour qu'il puisse préparer aussi son avenir. Si aujourd'hui, je n'ai pas été à l'école, je n'allais pas participer à un débat en français. J'allais peut-être participer à un débat en langue nationale. Donc, en fait, l'importance de ces radios n'est plus à démontrer. Et c'est les communautés qui sont fières que c'est leur outil. D'abord, c'est une association qui a créé, qui a demandé la création de la radio communautaire. Et ensuite, c'est les communautés qui ont été impliquées dans l'élaboration des grilles des programmes des radios. Donc, c'est ces communautés, la population qui dit à telle heure, nous voulons telle émission qui concerne les femmes.
Et ça, c'est un facteur de réussite parce que beaucoup de gens disent que quand une communauté n'est pas impliquée dans la recherche des solutions à ces problèmes, souvent ces solutions ne peuvent pas être viables. Mais quand elle est associée à la recherche déjà des difficultés, des raisons de ces difficultés et des solutions, et les gens se sentent concernés.
C'est le paysan qui parle au paysan. Ton parent, et tu le sais, c'est un sage du village. Ce sur quoi il est en train de te parler, tu vas être vite convaincu de ça. Et les spécialistes, parce que nous, on faisons très attention au niveau des radios communautaires. Par exemple, quand je vais parler de santé, j'invite l'agent de santé. Quand je vais parler d'agriculture, c'est l'agent d'agriculture. Il y a l'agent d'environnement. Et donc, c'est vraiment un service public qui est fait au profit des communautés rurales.
Monsieur Ali Ousseini, son témoignage de votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à la nécessité de l'existence de radios communautaires dans des pays comme les nôtres?
Alors, vous voyez déjà, la radio elle-même en tant que média, la radio d'abord tout court, c'est le média roi en Afrique. C'est-à-dire, l'avantage de la radio par rapport aux autres médias, c'est un média qui est très souple et qui s'adapte au contexte africain. Alors, dans le cas des radios communautaires, c'est une évidence que la radio communautaire appartient, comme Moussa l'a bien souligné, aux communautés de base. C'est un outil de communication de proximité. C'est-à-dire, l'enseignant du village qui est respecté, il peut sensibiliser mieux
sur la question de l'éducation.
L'agent de santé peut mieux parler de la santé, l'agent d'élevage peut mieux parler de l'élevage, etc., etc. Donc, ceux qui vivent avec eux leur parlent et eux-mêmes posent des questions. Donc, et cet organe d'information leur appartient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui leur vient d'en haut. Ils parlent de chez eux et ils reviennent chez eux. Alors, je tiens à préciser qu'au début de la lancée des radios communautaires, l'objectif était de faire une commune, une radio. C'était ça l'objectif. On avait à peu près à l'époque 265 communes. C'est essaimer l'ensemble du territoire nigérien et Dieu seul sait qu'il est vaste. Donc, que chaque commune puisse disposer
avoir d'une radio
communautaire. On n'est pas arrivé, c'est un objectif. J'ose espérer qu'on y arrivera. Mais Moussa aussi l'a dit plus haut, même les radios qui existent, comme il l'a dit, selon le répertoire, le dernier qui a été fait, il y a 184 radios communautaires. Donc, même si toutes ne sont pas encore fonctionnelles, il s'est longuement étendu là-dessus. Dieu merci, nous avons dans le paysage audiovisuel nigérien, le plus grand paquet de radios communautaires. On dépasse la plupart des pays du point de vue des radios communautaires. Donc, elles ont un rôle, c'est évident. Elles sont utiles, c'est sûr. Et il faut continuer à créer d'autres radios communautaires pour sensibiliser les populations, pour parler du développement, pour parler de la santé, pour parler des épidémies, pour parler de la propriété, de l'eau, les problèmes de tous les jours qui concernent les communautés.
Alors, M. Moussa Hassan, quel est le cahier de charge qui vous a été assigné par le Conseil supérieur de la communication? Je vais dire, quand j'ai dit vous, donc, en tant que... quelqu'un qui travaille dans des radios communautaires.
Oui, en fait, au niveau
que chaque normalement, chaque radio communautaire a un cahier de charge que le CIC lui assigne. Est-ce que il y a ce cahier de charge est commun à toutes les radios communautaires ou chaque radio communautaire a son propre cahier de charge?
Chaque radio communautaire a signé son cahier de charge à partir d'une mission que le Conseil supérieur de la communication a dépêché pour cela. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est en fait, c'est des médias qui sont là et il faut amener ceux qui gèrent ces médias-là à respecter les engagements lors de la demande d'autorisation, d'abord pour exercer en tant que média, mais aussi le fait que je vais rappeler que ce sont des associations qui gèrent et qui ont aussi un certain nombre de lois qui régissent les associations au Niger qu'il faut aussi respecter. Et faire en sorte que la radio, comme on l'a dit dans sa création, soit un outil de la population et qui contribue pour en fait l'émancipation de le développement de cette communauté.
Donc en grosso modo,
il y a des engagements vis-à-vis de la production que les radios doivent respecter. D'abord, j'ai dit que la grille émane de la population, c'est elle qui propose. Donc, on fait en sorte que les émissions, presque 80% des émissions des radios sont des émissions de développement. Au début, on ne faisait pas de publicité, mais il y a une loi et des décisions qui sont en train d'être prises au niveau du Conseil supérieur de la communication pour que les radios communautaires aussi puissent bénéficier des publicités et puis pouvoir les diffuser et avoir un peu d'argent. Mais quand on prend au niveau des cahiers des charges, effectivement, c'était un peu lourd, puisque c'est préparé au niveau du Conseil supérieur de la communication, c'est amené au niveau de la radio. Et nous, on a réfléchi par rapport à ça, on a dit, nous, en tant que radio, on doit se définir une charte, comme tu l'as dit dans ton introduction, on s'est défini une charte pour dire la radio communautaire, là, elle est quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire, avec qui elle doit le faire,
ça, c'est
et
à partir
comment
de,
le faire.
Est-ce qu'on peut avoir une idée
c'est à partir de 2016 que nous avons élaboré
la charte des radios communautaires.
Et je me souviens, à ce moment, c'était Ali Ousseini, le premier vice-président du Conseil supérieur de la communication. On a remis officiellement cette charte au ministère de la communication et le ministère a remis au Conseil supérieur de la communication pour en tenir compte dans la régulation en fait de ces médias de proximité là. Et c'est des radios que Dieu merci n'ont causé aucun problème. Je l'ai dit, Dieu merci, chaque fois je l'ai dit.
Donc, il y a un respect, en tout cas, un respect rigoureux du cahier des charges.
Du cahier des charges des radios communautaires.
Alors, qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est autorisé pour les radios communautaires, justement, si on va dans les détails?
En fait, il y a cette question d'information dont on parle. Il y a certaines informations qui ne sont pas traitées au niveau des radios. Parce que d'abord, l'association qui crée la radio est apolitique à but non lucratif. Donc, nous, on ne fait pas de politique. La seule chose politique qu'on peut faire, c'est amener le citoyen à comprendre qu'il a droit
à
se présenter. Les droits citoyens. Ça, c'est un peu politique. Mais sinon, parler d'un parti politique, faire même des communiqués pour dire que tel parti vous invite à vous mobiliser, on l'évite. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure que c'est un fils du terroir qui est engagé comme animateur au niveau de la radio. Il ne veut pas avoir une chemise.
Une certaine coloration.
Coloration politique. Il ne veut pas l'avoir parce qu'il veut que quand il parle, tout le monde puisse l'écouter. Donc pour ça, on ne fait pas les communiqués pour qu'un tel parti ne puisse pas dire « Ah, quand vous faisiez le communiqué d'un tel parti, vous avez mieux flatté que moi ou quelque chose comme ça.
Donc, pas de politique. Ça fait partie des interdits
au niveau de... Et aussi, comme je l'ai dit, l'information en tant que telle. Mais on donne une information locale ou quand le ministre va venir,
qui
par exemple, de la communication. On dit aux populations que le ministre de la communication il vient d'arriver à Simili et voilà ce qu'il a dit. Et c'est important. C'est important que l'autorité et sa voix puisse être entendue par les communautés rurales. Donc, aussi les publicités, comme je l'ai dit, c'est jusqu'à présent, on ne fait pas, on attend d'abord la décision du Conseil supérieur de la communication pour en faire. Et c'est des choses qu'on ne fait pas.
Pas d'information, mais souvent, à travers certains partenariats, des informations passent, ça, il n'y a pas de problème.
Mais on dit que toute émission et informative aussi. Donc, c'est cette façon on peut le comprendre. Mais, vous savez, comme ce ne sont pas des animateurs qui ont suivi une formation à l'IFTIC pour être des journalistes professionnels, donner de l'information
qui peuvent faire
c'est
attention.
C'est vrai, nous avons souhaité qu'au moins on puisse nous permettre d'avoir 9 mois à l'IFTIC pour avoir
un peu de bagage
organisé pour pouvoir faire ces informations-là. Mais nous, on évite. Quand on dit que la loi interdit ça, on ne fait pas.
Monsieur Ali Ousseini, un commentaire sur par exemple, le respect ou un peu ces différents interdits pour la radio communautaire.
D'accord. Alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est les radios communautaires, lorsqu'elles ont vu le jour, elles ont commencé à diffuser sans avoir signé de cahier de charge. Donc, je vous ai dit, c'est la première, c'est Bankilare, 98. Il a fallu attendre 2014 pour voir la signature entre l'organe de régulation qui est le CSC et les différentes radios communautaires. Vous voyez? Donc, tout ce temps s'est écoulé sans que les radios communautaires n'aient pu signer le cahier de charge. Elles ont quand même existé, elles ont fonctionné.
Et elles ont rendu service.
Elles ont rendu d'éminents services, il faut le dire. Puis, il y a eu la charte, comme l'a souligné...
qui est intervenue en 2016.
Qui est intervenue en 2016. Donc, le Conseil supérieur de la communication a voulu seulement faire respecter une des dispositions de la loi qui impose le respect du cahier de charge. J'ai le souvenir, quand la mission a été... lancé par le CSC en 2014, une centaine de radios communautaires à l'époque avaient signé, 104 exactement avaient signé en 2014 les cahiers de charges. Certainement que ça a dû évoluer. Et le cahier de charges n'est rien d'autre qu'une convention. Donc c'est une entente entre les promoteurs de la radio en question et l'organe de régulation. Donc on précise les droits, les obligations et les devoirs. Ce que la radio peut faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Et on définit, c'est une simple convention, comme diraient les juristes. C'est une entente entre le régulateur et les promoteurs de la radio. Et à ma connaissance, jusqu'ici, il n'y a eu aucun problème du point de vue du respect des cahiers de charges, puisqu'elles existaient sans cahier de charges. Maintenant qu'il y a eu les cahiers de charges, elles ont régularisé leur situation et les choses se sont bien passées.
Ça, c'est un exemple de réussite et de discipline extraordinaire.
Absolument. Et je vais même aller au-delà. Vous voyez, lorsque la mission a été lancée, j'étais au Conseil supérieur de la communication. Nous avons pu dénombrer 17 radios communautaires qui existaient, qui diffusaient, qui travaillaient, qui rendaient beaucoup de services, mais qui n'avaient pas d'autorisation du Conseil supérieur de la communication. Et parmi ces 17, lorsqu'on s'est rendu compte, après la mission... du Conseil supérieur de la communication. Mais le bon sens a voulu, et surtout l'arsenal juridique, parce qu'on dit que c'est la liberté qui prime, c'est la pluralité qui est la règle. Le Conseil supérieur de la communication a légalisé l'existence de ces 17 radios qui n'avaient pas d'autorisation. Parce que si elle diffuse, c'est que ça répond à un besoin, le besoin de la communauté. Donc,
il suffit juste de régulariser.
Nous avons régularisé. Et donc, les choses se passent plus ou moins bien. Et vraiment, je tire chapeau aux radios communautaires. Et on en parlera plus loin. Mais vous voyez, c'est difficile aujourd'hui de faire fonctionner un organe d'information comme les radios communautaires sur la base du volontariat. Mmh. Vraiment, c'est des gros artisans du volontariat. On verra les limites de cette dynamique.
Et nous arrivons justement à cette partie. Mais avant de rentrer un peu en détail dans les difficultés que vivent ces radios, je m'en vais vous demander, M. Moussa Hassan, secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires, quelles sont les sources de financement de ces radios communautaires?
Moi, je ne peux pas dire qu'il y a assez de sources de financement des radios communautaires, mais je vais rappeler ce que je sais. C'est qu'au tout début, les communautés ont beaucoup, beaucoup contribué au fonctionnement de ces radios.
Parce que c'est une radio qui leur appartient.
Voilà. Il y a des cotisations qui se faisaient au niveau des membres même de l'association.
Et au niveau des auditeurs.
Pour faire fonctionner cette radio, mais aussi parmi les sources, avant on faisait des concerts des auditeurs que aujourd'hui on a perdu avec l'avènement des sociétés de téléphonie. Avant c'était les cartes, on envoyait et les gens achetaient, les auditeurs achetaient, on revendait très facilement. Vous pouvez vous retrouver avec 100, 120 000 le mois rien que sur les cartes d'auditeurs. Donc ceci a été stoppé par les sociétés de téléphonie. On va en revenir aussi par rapport aux sources. Donc, il y a des petites prestations qui se font avec les partenaires au développement qui peuvent
passer des messages de santé, de sensibilisation.
Mais c'est là où, en fait, je m'en vais faire un appel à ces partenaires de revoir, en fait, cette façon de travailler avec les radios. D'abord,
pourquoi
tu peux aller trouver une radio communautaire, diffuser un message de mobilisation sociale à 36 000, alors qu'une radio privée qui est à Niamey, on l'a payé 210 000 pour faire la mobilisation. Alors que ceux qui doivent être mobilisés, il y a un grand écart, et ceux qui doivent être mobilisés, c'est les populations rurales à Niamey. Ceux qui vivent à Niamey savent beaucoup plus l'importance d'une vaccination peut-être que celui qui est en campagne qui n'a pas assez d'informations. C'est la radio qui a commencé à le mobiliser, à l'amener à accepter cette vaccination.
C'est une situation générale pour toutes les radios communautaires.
Toutes les radios communautaires. Et c'est des situations qui font qu'aujourd'hui on n'arrive pas à subvenir aux dépenses de souveraineté au niveau de la radio
communautaire. En dehors de ces deux aspects que vous avez cités, qu'en est-il de la contribution de l'État?
La contribution de l'État, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé, nous le souhaitons. On est allé vers le ministère de la Communication, vers le Conseil supérieur de la Communication. Ce qu'il faut féliciter ici, c'est qu'ils nous ont d'abord accueillis à bras ouverts. Ils ont accepté que les radios contribuent aujourd'hui à la sensibilisation des communautés pour un développement durable. Et là, comment faire en sorte que ces radios puissent bénéficier des fonds? Nous sommes derrière un avant-projet de loi sur le statut et financement des radios communautaires et qui est déjà dans les mains du ministère de la Communication. Et je peux dire même des mains du gouvernement parce que c'est loin. Au niveau des communes, c'est là où le bas blesse un peu parce qu'il y a des petites conventions. Nous avons en tout cas échangé avec beaucoup de maires.
Vous voulez dire les mairies?
Les mairies pour les amener à signer des conventions de partenariat avec la radio.
Et qui peuvent faire en sorte, ils font des subventions
annuelles de 250 000, 300 000, ça dépend de la zone. Mais quelque part, tu trouves que la mairie a enregistré cette dépense. Non, pas de dépense, il a enregistré cette ligne, mais qui n'est jamais octroyée à la radio. Alors que la radio contribue à la mobilisation des ressources internes
pour la mairie. Alors, monsieur Ali Ousseini, Santalma, conseiller technique du ministre de la Communication du ministère. Voilà. Alors, quel commentaire par rapport à la participation justement de l'État? Vous avez reconnu, en tout cas ensemble nous avons vu l'importance des radios communautaires dans le sillage médiatique du Niger pour les services qu'elles rendent. Alors, qu'en est-il de la participation de l'État dans le financement de ces radios communautaires?
Alors, merci de poser cette question. Comme Moussa vous l'a souligné, les recettes générées par les radios communautaires elles-mêmes d'abord, il y a les cotisations des membres elles sont assez faibles. Mmh. Il y a les communiqués payants, mais malheureusement, avec l'avènement des compagnies de téléphonie cellulaire, elles sont devenues des concurrentes de ces radios. Donc, elles ont tué le peu que les radios communautaires arrivaient à gagner. Mais, pour être franc, c'est les partenaires, comme je vous l'ai dit, qui ont aidé à créer ces radios communautaires. C'est les partenaires qui avaient financé dans un premier temps les radios communautaires. Lorsque ces partenaires se sont retirés, c'est la finalité des projets. Donc, les radios communautaires sont retrouvées exsangues, sans ressources. Malheureusement, l'État qui dégage chaque année une enveloppe destinée au fonds d'aide à la presse privée. Donc, cette aide ne concerne pas pour l'instant encore les radios communautaires.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de peut-être du pourquoi?
Alors,
est-ce qu'on pensait qu'on ne considérait pas ces radios comme un média ou...
Non, c'est pas qu'on ne considère pas. C'est l'État en appuyant les radios et les télévisions privées commerciales au nom du service et du droit à l'information qu'elle amène aux citoyens de ce pays, l'État a estimé nécessaire d'appuyer les radios et les télévisions privées. Mais l'État n'a pas encore jugé nécessaire de dégager un montant pour les radios communautaires. À juste titre, l'État se doit d'aider, parce qu'il a institué l'arrêté, on l'a vu, l'État se doit d'accompagner les radios communautaires. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, l'État ne finance pas les radios communautaires. Il sensibilise les partenaires à le faire, mais lui, pour l'instant, pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Donc, il faut songer, à mon avis, à trouver des mécanismes qui pourraient permettre aux radios communautaires de générer par elles-mêmes des ressources. Je pense que c'est cela qui est le plus important. Et vous voyez, jusqu'ici, Moussa vous l'a dit plus haut, il était interdit aux radios communautaires de faire de l'information au sens qu'on entend fait par les radios privées et les radios communautaires. Il faut autoriser les radios communautaires à faire de la publicité. Parce que vous savez, la publicité, c'est ça qui finance les médias.
Alors nous allons, monsieur le conseiller, sans vous interrompre, excusez-moi de vous interrompre justement, nous allons lui demander à Moussa Hassan de nous détailler un peu les principales difficultés. Ensuite, nous allons venir un peu à ce qu'il faut faire. Monsieur Moussa Hassan, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que vivent ces radios communautaires? On a vu déjà ces volets du financement, en tout cas, qui reste encore à...
Difficulté, il y en a, vous avez commencé même à les frayer. Aujourd'hui, une entreprise de presse ne peut pas fonctionner sans moyens financiers d'abord.
Sauf que là, ce n'est pas une entreprise de presse, c'est un but non lucratif,
c'est une entreprise, c'est quelque part des moyens qu'il faut pour le matériel, pour mieux faire son travail. Et je m'en vais dire qu'au niveau des difficultés, comme vous le voulez, je vais le dire, c'est d'abord le matériel.
Le matériel.
Tout de suite, nous avons dit que c'est les 184 radios. En 2016, quand nous avons mené l'étude, il y a 34 qui n'étaient pas du tout fonctionnels et qu'il fallait faire en sorte que ces radios-là soient fonctionnelles. Et à part ça, il y a ces problèmes de formation qui se posent au niveau des radios. Nous avons souhaité avoir au moins une bourse ou bien même s'il faut payer
pour
50%
pour mettre aux gens
d'aller au niveau
de avoir un bain de
voilà, puisque avec les partenaires nous le faisons. Nous avons pu élaborer nous aujourd'hui un guide de gestion d'une radio communautaire qui est en train d'être vulgarisé auprès des partenaires.
Si nous comprenons Moussa Hassan, il y a ce volet
matériel,
il y a le manque de formation,
manque de ressources financières. C'est parce que c'est ce qui nous a amené à aller vers cet avant-projet de loi pour le financement des radios. Et aussi, il faut exempter les radios communautaires de taxes. Regarde,
c'est une façon. C'est-à-dire que les radios communautaires
payent des taxes. Nous sommes en train de payer des taxes. Hier, avant-hier, j'étais au ministère de la Communication pour informer le ministère, mais ce n'était pas officiel parce que je n'avais pas écrit. On est en train de préparer la lettre. C'est une facture de 125 000. On vous prend TVA 19% et on vous prend BIC 5%. Puisque nous, nous ne voulons pas faire des NIF parce qu'on pense que c'est une association qui est là et ce n'est pas à but lucratif et on n'a pas le droit de faire. On enregistre le contrat, si c'est un contrat, au niveau de la DGI. Et l'enregistrement du contrat, ça fait au moins 17 000 peut-être. Hein? C'est quand ça dépend du fond, de l'argent. Tout ça, c'est des difficultés. On doit exempter les radios communautaires de taxes. Parce que nous faisons un service public pour lequel on n'est même pas appuyé. On cherche des financements avec les autres partenaires, mais aussi les partenaires aussi, en termes de difficultés. J'ai dit tout de suite que pour des frais de mobilisation, 36 000 pour une radio communautaire et 210 000 pour une radio privée.
Alors vous avez,
ça fait partie des difficultés que nous rencontrons.
L'autre difficulté aussi, souvent on dit qu'au niveau, vous avez parlé de formation, mais souvent les agents qui travaillent dans les radios communautaires, étant donné que c'est du volontariat, beaucoup d'entre eux partent
après quelques temps. Je vais en arriver là.
Oui, il faut en arriver parce que beaucoup de temps.
Oui, c'est pour ça que je vais en arriver là. Voilà. Donc, cette question de bénévolat fait que ceux qui sont formés au niveau même des radios quittent les radios communautaires. Et c'est parce que, quelque part, l'animateur a travaillé toute la journée, il revient chez lui, même vite, il n'y a rien. Et à la fin du mois, il n'y a rien. Donc ça fait partie aussi des difficultés.
Il commence à chercher
un travail, puisque déjà, ses capacités ont été renforcées en animation. Très facilement, les projets et les ONG les prennent. Là, c'est important parce que la personne a été au moins renforcée et elle est en train de contribuer au développement du pays.
Alors, M. Ali Houssein Nsantalma, on a vu ces quelques difficultés citées par le secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires. Finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un déphasage. Une radio qui n'est pas appuyée par l'État du Niger, mais qui, en plus, est taxée, et d'une part, et d'autre part, voilà, qui vit dans des difficultés.
Alors, comme Moussa vous l'a dit, ils sont en train d'entamer une démarche à l'endroit donc de l'État du Niger par l'entremise du ministère de la Communication. Donc, j'ose espérer que la démarche puisse être fructueuse et aboutir. Maintenant, pour revenir aux propositions de viabilité des radios communautaires, il y a un existant, c'est-à-dire il y a les radios qui existent et qui fonctionnent, Kahin. Donc, ce serait bien que l'État procède à la réhabilitation des radios déjà qui existent.
Qui existent et qui ont aujourd'hui des difficultés.
Qui ont des difficultés du point de vue matériel, du point de vue de la formation, au moins les accompagner. On peut par exemple envoyer les jeunes gens qui sortent de l'IFTIG au titre du service civique national. Vous savez, c'est un service national.
Bien sûr.
L'État peut mettre à la disposition de ces radios communautaires comme étant sa contribution. Oui. On peut envoyer ces jeunes journalistes nouvellement sortis de l'IFTIG parce qu'ils sont déjà payés par l'État.
Oui, bien sûr.
On peut les affecter dans les radios communautaires.
Ils peuvent aller aider dans la production et aider peut-être même dans la formation, dans le renforcement de capacités.
Voilà, ce serait une très bonne chose. Ce serait bien que l'État songe à trouver ou dans le fonds d'aide à la presse privée, ou par un autre mécanisme, puisse trouver un mécanisme qui peut soulager la sécheresse financière des radios communautaires.
Alors,
mais il faut dire aussi, ces radios communautaires elles-mêmes ont des insuffisances. Par exemple, leurs comités de gestion ne sont pas toujours formés. Donc, il faut procéder à former ces comités de gestion.
Et qui permettent de garantir une certaine transparence dans la gestion des fonds qui arrivent.
Absolument. Et ça, améliorer le contenu aussi.
Améliorer
le contenu de leur grille
de programme.
Puisque plus la grille est intéressante, davantage ça peut
attire des partenaires.
Ça peut faire venir ou des partenaires ou ça peut faire venir de la publicité.
Alors, pour finir avec vous, nous sommes pratiquement à la fin, M. Moussa Hassan. Comment, à votre avis, on peut améliorer l'efficacité et permettre à ces radios d'être viables?
Oui, le président vient de faire des propositions telles que l'accompagnement même de l'État en termes de formation et en termes de financier aussi pour permettre à ces radios-là d'être viables. Nous avons fait des formations en gestion administrative et comptable, comme vous l'avez dit tout de suite au comité de gestion, pour leur permettre de mieux faire. Mais il faut faire en sorte que ces radios-là, d'abord, puissent être accompagnées par l'État, mais aussi par les partenaires. Moi, je pense que le ministère de la Communication doit, aller vers ces partenaires-là et les amener à respecter un certain nombre de choses. On ne peut pas donner 36 000 et 210 000. Et vous avez vu les compagnies
cette différence de traitement entre radio privée et radio communautaire.
Voilà. Et aussi les compagnies de téléphonie, même à travers ARTB, peut faire quelque chose pour ces radios communautaires, pour qu'on ait un fonds de soutien pour ces radios communautaires-là. Vous voyez, par exemple, au Bénin, toutes les radios communautaires bénéficient de l'appui de l'État, à partir à travers Haka. À la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais c'est seulement au Niger que ça se passe.
Alors, vous avez dit que par rapport justement à ces financements, il y a un avant-projet de loi, qui est en tout cas dans les circuits. L'objectif, c'est quoi l'objectif?
En fait, l'objectif, c'est de
est-ce que toutes ces préoccupations sont prises en compte, justement?
Voilà, sont prises en compte dans l'avant-projet de loi. Et tu sais, après, il faut aussi un décret d'application qui va définir un certain nombre de
mais
choses.
D'abord, l'adoption, parce que je ne pense même pas que c'est arrivé encore en Conseil des ministres.
C'est pas arrivé en Conseil des ministres, mais nous le souhaitons quand même. C'est pas arrivé en Conseil des ministres, mais ça donne quand même le courage, parce que le fait que c'est déjà accepté au niveau du ministère de la Communication, c'est déjà un pas. Voilà.
Alors, sur quoi vous concluez, mes chers invités, sur les perspectives, justement, M. Ali Hussein?
Alors, moi, je trouve que la bonne perspective, c'est par là où termine Moussa, c'est le ministère de la Communication, qui est la porte d'entrée donc, des textes au niveau du gouvernement, a pris ce texte des radios communautaires. Souhaitons que ce texte puisse soit adopté. Et une fois que ce texte est adopté, les radios communautaires pourront respirer. Ce sera un ballon d'oxygène. Mais il faut inscrire au mérite des radios communautaires leur audience. Vous voyez, vous êtes de la radio. Une radio qui est aimée et qui n'est pas écoutée, ce n'est pas une radio. Les radios communautaires, malgré toutes leurs difficultés, elles baignent dans un environnement où elles ont un taux d'audience extraordinaire. Si vous allez dans les communautés, tout le monde écoute les radios communautaires. Alors donc, c'est pour cette raison, à cause de leur taux d'audience, que l'État se doit d'accompagner et d'aider les radios communautaires.
D'appui à une radio communautaire, qui est une activité génératrice de revenus, qui a été accompagnée par Voix de la Paix, telles que les locations de chaises, de bâches, pour permettre à la radio de générer des ressources et à pouvoir accompagner ceux qui travaillent sur cette radio communautaire.
Merci à vous. Et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui qui portait sur comment rendre viables et efficaces les radios communautaires au Niger. Nous avons vu avec nos invités qu'à ce jour, au Niger, l'on compte 184 radios communautaires, dont environ 150 d'entre elles fonctionnent encore et qui rendent un service public aux communautés dont elles sont issues. Ces radios communautaires qui participent à la sensibilisation sur diverses thématiques, sur le développement rural, sur la santé, l'éducation. Mais ces radios vivent des difficultés, notamment en termes de manque de matériel, des difficultés en termes de formation et de ressources financières surtout. La subvention de l'État étant quasiment absente au niveau de ces radios partenaires, de ces radios communautaires. Mais nos invités ont souhaité, en tout cas, la participation accrue du gouvernement dans la viabilité de ces radios communautaires, notamment en mettant à leur disposition des sources de financement conséquentes. Merci à tous. Nous étions en compagnie de M. Ali Hussaini Santalma, qui est conseiller technique du ministère de la Communication du Niger, et M. Moussa Hassan, qui est secrétaire général de la Coordination nationale des radios communautaires. Je suis Alassane Kouzima Amadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la régie vidéo assurée par Adama Dawaki.